est midi en temps universel, 13h ici à Paris. Bienvenue dans RFI Midi.
Diane Berger.
À la une, les opérations israéliennes en Cisjordanie. L'armée annonce avoir tué plusieurs personnes qualifiées de terroristes, parmi lesquelles un homme libéré en novembre 2023 lors du premier échange d'otages du Hamas contre des prisonniers palestiniens. La présidente du Mexique durcit le ton contre Donald Trump. Le chef d'État américain a officialisé les taxes douanières qui vont être imposées à son voisin. Il a aussi accusé les autorités mexicaines d'être liées à des groupes criminels. Et puis la détermination des manifestants en Serbie. Le mouvement étudiant bloque depuis hier plusieurs ponts de Novi Sad. Reportage à suivre de notre correspondant Laurent Rouy.
RFI à Paris, 89 FM.
Ensuite, le journal des sports de Christophe Diremzian. Notre invité, 4 ans après le coup d'État en Birmanie, ce sera la spécialiste Johanna Chardonnieras. La chronique Ligne des Défenses, Franck-Alexandre, reviendra sur la fin de la présence militaire française au Tchad. Et à 12h30, temps universel, Afrique Midi avec Simon Bourtembourg. Mais donc d'abord, le journal. Troisième semaine de trêve entre Israël et le Hamas. Les regards sont surtout tournés vers Gaza et les libérations d'otages. En Cisjordanie, l'opération Mur de Fer a donc lieu sous les radars. Une opération israélienne qualifiée de très politique par les détracteurs du Premier ministre Benjamin Netanyahou et qui viserait à satisfaire les demandes de l'extrême droite de son gouvernement. Michel Paul à Jérusalem pour RFI.
L'armée israélienne annonce avoir étendu ses raids et la nuit dernière, ce sont plusieurs frappes aériennes qui ont été menées. Selon un communiqué militaire israélien, 3 cellules terroristes ont été éliminées. Des troupes opèrent également dans le village de Tamoun, au sud de Jenin, où des caches d'armes auraient été mises au jour. Pas de chiffres exacts à ce stade sur le nombre de victimes, mais de l'aveu de l'armée israélienne elle-même, Abed el-Hadi Kamil a été tué lors de l'opération. Fait intéressant et qui fait le jeu de l'extrême droite, al-Hadi Kamil avait été relâché par Israël en novembre 2023 dans le cadre du premier échange prisonnier-otage. La récidive, c'est précisément la principale préoccupation en Israël qui donne lieu à une petite guerre psychologique. Les prisonniers libérés depuis le 19 janvier sont munis d'un bracelet fourni par l'administration pénitentiaire israélienne avec ce verset des psaumes en hébreu et en arabe. Le peuple éternel n'oublie pas, je poursuivrai mes ennemis et les rattraperai. Une pratique dont l'efficacité reste à prouver, mais qui a été critiquée par la Croix-Rouge internationale. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Certains de ces Palestiniens libérés par Israël pourraient être accueillis en Turquie. Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, l'a annoncé il y a quelques instants. Une action qui pourrait être coordonnée avec d'autres pays pour permettre, selon ses mots, que le cessez-le-feu reste en vigueur. C'est dans ce contexte que Benjamin Netanyahou s'est envolé pour les États-Unis. Le premier ministre israélien doit y être reçu par Donald Trump mardi. C'est le premier dirigeant étranger reçu par le président américain depuis son retour à la Maison-Blanche, signe de l'alliance solide entre les deux hommes. Donald Trump a, en l'espace de quelques jours, débloqué la livraison de bombes pour l'État hébreu, annulé des sanctions contre des colons israéliens et proposé de transférer les Palestiniens de Gaza en Égypte ou en Jordanie. Autre mesure phare de la politique étrangère de Donald Trump, les nouvelles taxes douanières qu'il impose à la Chine, au Canada et au Mexique. Pékin annonce, sans les détailler, qu'il y aura des représailles. Le pays veut également porter plainte contre l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Le Canada va imposer à son tour des droits de douane de 25% sur des produits américains. Et au Mexique, dont 80% des exportations vont vers les États-Unis, les autorités sont en colère, d'autant que Donald Trump les accuse d'entretenir des liens avec les cartels de la drogue. Gwendolina Duval.
Le gouvernement mexicain, qui n'avait cessé d'appeler au calme et à l'apaisement, a répondu cette fois-ci avec un ton beaucoup plus dur. Dans un long post sur le réseau X, la présidente Claudia Sheinbaum rejette les accusations du président américain sur les liens entre les autorités mexicaines et les groupes criminels. Elle parle de calomnie et rejette même le blâme sur l'accusateur. Selon elle, s'il existait une alliance entre un État et les cartels, elle viendrait plutôt de la part des États-Unis qui acceptent de leur vendre des armes. Elle invite également son homologue à prendre des mesures pour combattre les vendeurs de drogue sur son propre territoire et lutter ainsi contre un problème de santé qui concerne surtout les États-Unis. États-Unis. La chef d'État répète que le Mexique ne cherche pas de confrontation avec Donald Trump, mais pour autant il n'a pas l'intention de se laisser faire. Sans donner plus de détails, Claudia Sheinbaum indique qu'elle a également donné l'ordre de mettre en application un plan pour protéger les intérêts économiques de son pays, avec entre autres des mesures pour installer à son tour des tarifs douaniers. Guendolina Duval, Mexico, RFI.
Le début de cette guerre commerciale inquiète au-delà des trois pays ciblés pour l'instant. Le ministre des Finances du Japon a fait part de sa profonde préoccupation car ses droits de douane risquent de bouleverser l'économie mondiale. L'Union européenne est aussi menacée par Donald Trump. Le ministre français de l'Industrie appelle Bruxelles à adopter une attitude mordante, je le cite, face au président américain. Le chef de la diplomatie américaine est lui arrivé au Panama. Marco Rubio doit rencontrer dans quelques heures le président du pays sur fond de tensions avec les États-Unis. Le président américain veut en effet prendre le contrôle du canal du Panama. Autre déplacement à noter ce dimanche, Ahmad al-Sharaa est arrivé en Arabie Saoudite. Son premier voyage à l'étranger pour le président par intérim syrien depuis qu'il a renversé Bachar al-Assad et pris le pouvoir. Il doit rencontrer le prince Mohamed Ben Salman. Les autorités nouvelles de Syrie misent notamment sur les monarchies du Golfe pour aider le redressement de leur pays. Les ministres des Affaires étrangères du G7 condamnent l'offensive du M23 dans l'est de la République du Congo, qualifiée de mépris flagrant de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Ils déplorent notamment l'augmentation du nombre de déplacés et la dégradation des conditions humanitaires sur place. La situation en République démocratique du Congo, nous y reviendrons évidemment dans Afrique Midi dans une vingtaine de minutes sur RFI. Il est maintenant 13h06 à Novi Sad, la deuxième ville de Serbie, où les étudiants sont toujours dans la rue. Ils manifestent jusqu'à 15h après avoir passé la nuit dehors. Grande mobilisation de 24h lancée 3 mois jour pour jour après l'effondrement du toit d'une gare de la ville. Un accident qui a tué 15 personnes et réveillé la colère de la jeunesse qui se mobilise quasiment tous les jours pour demander la fin de la corruption et dénoncer le pouvoir en place. Laurent Rouy.
Une fois de plus, les étudiants ont lancé une immense manifestation après celle qui avait poussé le Premier ministre à la démission en début de semaine. Ils sont plusieurs dizaines de milliers à bloquer les trois ponts de Novi Sad. Des protestataires venus de toute la Serbie, comme l'explique cette pharmacienne belgradoise.
À la station de péage, à l'entrée et à la sortie de Novi Sad et tout le long du trajet sur l'autoroute, il y avait des colonnes de voitures et des embouteillages. Nous nous attendions à ce qu'il y ait beaucoup de monde, mais pas autant.
Les agriculteurs protègent le rassemblement de leurs tracteurs. Les avocats aussi ont rejoint le mouvement.
Notre nouvelle décision, c'est qu'il y aura 15 jours de grève. Ensuite, le barreau décidera s'il faut continuer. Il était très important que les gens se libèrent de leur peur. Et maintenant que ce mouvement est lancé, il sera très difficile de l'arrêter.
D'abord concentré sur la justice et contre la corruption, le mouvement prend une couleur de plus en plus politique, selon cette retraitée.
Ça ne nous intéresse pas de savoir qui est le président. On veut que les institutions fassent leur travail. Nous ne voyons qu'une seule solution, un gouvernement de transition et seulement ensuite des élections. Les élections sont impensables dans les conditions actuelles.
Pour l'instant, le président Vučić refuse tout gouvernement de transition. Il s'est donné 10 jours pour décider de l'organisation ou pas de nouvelles élections. Laurent Rouy, Novi Sad, RFI.
Les manifestants allemands, eux, défilent contre le rapprochement de la droite et de l'extrême droite. Des dizaines de milliers de Berlinois sont attendus dans les rues de la capitale dans 1h30. Hier, plus de 220 000 personnes ont manifesté dans d'autres grandes villes du pays pour dénoncer la fin du cordon sanitaire entre le parti conservateur, la CDU, et le mouvement d'extrême droite AFD. François Bayrou prend le risque de la censure. Le Premier ministre français va engager lundi la responsabilité du gouvernement sur le budget de 2025. Autrement dit, comme son prédécesseur Michel Barnier, il va tenter de faire adopter le texte sans vote des parlementaires. Mais les députés peuvent décider en réaction de le renverser. C'est qui tout double, Aurélien de Vernois?
En l'absence de majorité en faveur du gouvernement à l'Assemblée, François Bayrou n'a en réalité guère le choix. Le nouveau Front Populaire a d'ores et déjà annoncé qu'il voterait contre le texte et pas question de laisser son destin dans les mains du Rassemblement National. Le Premier ministre peut en revanche espérer se sortir de la motion de censure qui sera déposée juste après le 49-3. Le RN n'a pas encore fixé sa position, ce sera lundi, et surtout le Parti Socialiste est susceptible de vouloir épargner le gouvernement, même si les divisions restent fortes à ce sujet au sein du PS. Dans son interview interview. François Bayrou semble toutefois confiant, se félicitant du dialogue qu'il a fait naître ces dernières semaines et se projetant sur la suite. Il explique notamment être prêt à modifier à tout moment la trajectoire budgétaire du pays si les prévisions retenues s'avéraient fausses. Et le Premier ministre poursuit son analogie avec l'Himalaya, évoqué en début de mandat. Il y a 8 sommets à gravir, explique-t-il, citant l'éducation, la santé ou l'immigration. Mais le camp de base a été établi avec l'accord sur le budget, poursuit François Bayrou. Attention toutefois au risque d'avalanche lors du vote sur la censure, mercredi ou jeudi.
Aurélien Devernoy du service politique de RFI. Il est maintenant 12h10 en temps universel.
RFI midi.
Dans quelques minutes, nous reviendrons sur la situation en Birmanie, 4 ans après le coup d'état militaire et l'éclatement de la guerre civile. Ensuite, cette petite querelle entre le Pérou et le Chili, d'où vient le pisco? Les deux pays revendiquent cette eau de vie comme boisson nationale. Et puis dans les salles françaises cette semaine, le film La mer et ses vagues, une rêverie poétique sur la ville de Beyrouth et sur l'exil. Mais d'abord, les sports. Le journal des sports de Christophe Diremzian. Bonjour Christophe.
Bonjour Diane.
Football, suite et fin de la 20e journée de Ligue 1 avec le choc Marseille-Lyon en clôture.
Un Olympico entre l'OM 2e battu à Nice dimanche dernier et d'autant plus contraint de l'emporter que le leader, le PSG, est allé cartonner hier à Brest 5-2 et que Monaco est revenu à hauteur des Marseillais après sa victoire sur Auxerre 4-2. En face, des Lyonnais dirigés par leur nouvel entraîneur Paulo Fonseca, chargé de relancer une équipe à la peine. En septembre dernier, les Marseillais étaient allés renverser l'OL 3-2 au terme d'un scénario complètement fou. À l'époque, Adrien Rabiot venait tout juste d'être recruté par l'OM. Le milieu de terrain n'avait donc pas disputé ce match, mais il sait combien ce duel compte.
C'est un match qui est enthousiasmant, qui est plaisant à jouer, très important pour aussi notre position au classement. Eux qui sont aussi pas très loin, qui se battent pour accrocher le podium. Il faut qu'on se concentre sur nous, ce qu'on a bien fait dans les gros matchs. Réussir à poser notre jeu, à ressortir les ballons, à être assez agressif en jouant chez nous. En allant les chercher haut, les empêcher de jouer. Voilà, on sait qu'ils ont de très bons joueurs. Ils sont capables de faire des différences, mais je pense qu'en leur mettant la pression, c'est une équipe quand même qui a du mal quand on vient les chercher assez haut dans leur camp. Après, c'est sûr que si on les laisse sortir, ils ont de la qualité pour aller au but. Mais je pense qu'il faut se concentrer sur nous avec ces armes-là.
Adrien Rabiot, Marseille-Lyon, 19h45, TU. 4 autres matchs à suivre dans l'après-midi. Toulouse-Nice, Rennes-Strasbourg, Angers-Le-Havre et Reims-Nantes.
En Première Ligue, 24e journée et un autre choc, Arsenal-Manchester City. Mais même problématique que pour les Marseillais.
Oui, pour Arsenal, ne pas laisser filer Liverpool. Encore vainqueur hier à Bournemouth, 2-0, doublé de Mohamed Salah. Et remettre de la distance avec son rival direct, Nottingham Forest, sans pitié avec Brighton, 7-0. Les Gunners veulent récupérer la deuxième place pour eux seuls et affronter les Citizens dans ce contexte donne toujours un surcroît de motivation, estime l'entraîneur Mikel Arteta.
Ça nous donnerait de l'énergie pour la suite. Gagner des gros matchs, c'est toujours particulier. Chaque fois que nous disputons un gros match, ça nous apporte ce petit truc en plus. De la confiance, de l'émotion, le fait d'y parvenir et d'enchaîner les victoires, c'est notre objectif.
Arsenal-Manchester City, 16h30, TU. De son côté, Manchester United affronte Crystal Palace, 14h TU. 22e journée de Liga, dans moins d'une heure, le FC Barcelone reçoit Alavés avec la perspective de se rapprocher du duo de tête madrilène, le Real et l'Atlético. Le premier est tombé hier à l'Espagnol Barcelone, 1-0, au grand bénéfice du second, vainqueur de Mallorca 2-0 et qui revient à un petit point du Real. Enfin, dans le temps fort du jour en Serie A italienne, c'est le derby lombard Milan AC Inter, 17h TU. Dans la soirée, Naples, leader, jouera à l'AS Rome.
C'est la sensation de la nuit dans le milieu de la NBA, un échange de stars entre deux clubs qui fait grand bruit.
Et à lire les réactions sur les réseaux sociaux, certains ont dû tomber de leur chaise en apprenant que Luka Doncic, le meneur des Dallas Mavericks, partait chez les Lakers de Los Angeles et que le pivot Anthony Davis allait faire le chemin inverse. Le Slovène de 25 ans, finaliste 2024 et quintuple participant au All-Star Game, rejoint la franchise californienne de LeBron James dans le but plus ou moins avoué de remplacer à terme la légende âgée de 40 ans. Et Davis, lui, va renforcer la défense texane, mais dans les deux cas, il faudra attendre un petit peu pour les voir sous leur nouveau maillot car ils sont blessés.
Enfin, le mondial masculin de handball 2025 s'achève aujourd'hui et l'équipe de France va essayer de ne pas repartir bredouille.
Et sauver ce qui peut l'être encore après le flop magistral de la demi-finale contre la Croatie. C'est l'objectif des Bleus face au Portugal, la belle surprise de cette édition. Match pour la médaille de bronze à suivre à Oslo à 14h temps universel et puis suivra à 17h TU la grande finale entre les Croates et l'insatiable Danemark qui lorgne un 4e sacre d'affilée, c'est du jamais vu.
Merci beaucoup Christophe Diremzian pour ce journal des sports.
Diane Berger.
4 ans et 1 jour après le coup d'état militaire, la répression reste massive en Birmanie. Le pays, désormais ravagé par la guerre civile entre la junte qui perd du terrain et des groupes rebelles issus des minorités ethniques. Les combats ont provoqué, selon les Nations Unies, la mort de plus de 6 000 civils, 3 500 000 déplacés. Bonjour Johanna Chardonnerias.
Bonjour.
Vous êtes la coordinatrice de l'ONG Info Birmanie. Alors, selon les Nations Unies, toujours cette année, plus du tiers de la population aura besoin d'aide humanitaire. Quels sont les besoins exactement des Birmans ?
Les besoins sont multiples. La Birmanie, depuis donc le coup d'État il y a 4 ans, est plongée dans une crise humanitaire et économique. Et on voit qu'il y a plus de 20 millions de personnes qui vont avoir besoin d'aide humanitaire selon nos estimations l'an prochain, avec des alertes à la famine du fait des difficultés pour les paysans de récolter dans les champs, donc on n'a même pas 20% des besoins alimentaires de la population birmane qui devrait venir de la Birmanie cette année. En parallèle, on a beaucoup de difficultés à voir arriver l'aide humanitaire dans les zones qui ne sont pas tenues par la junte, et il faut savoir que la résistance détient désormais à peu près la moitié du pays.
Oui, vous le dites, l'aide humanitaire met du temps à arriver, elle n'arrive pas dans toute une partie du pays. Est-ce que le pays est en quelque sorte dans un angle mort de la communauté internationale ?
Tout à fait, et c'est ce qu'on constate aussi sur les financements. L'appel à financement pour la Birmanie de l'ONU l'an dernier n'a été rempli qu'à hauteur de 40%, ce qui évidemment ne suit pas du tout les besoins du pays.
Oui, et puis on parle aussi de pénurie d'électricité extrêmement importante dans le pays depuis plusieurs mois. On imagine bien que là aussi, cela a des conséquences sur les systèmes de soins, sur toute l'économie locale.
Tout à fait. En parlant des systèmes de soins, il faut savoir que donc il y a eu énormément de médecins, d'infirmiers, de personnel médical en désobéissance civile qui ont refusé de travailler pour le régime militaire. Et on a des hôpitaux qui sont quasi à l'abandon dans les zones tenues par la junte et extrêmement fragiles dans les zones hors de la junte du fait du manque d'infrastructures.
Et est-ce qu'il est possible dans ces conditions de recenser précisément le nombre de morts, non seulement liés au combat, mais aussi à cette crise humanitaire dramatique ?
Non, malheureusement, on n'a pas de chiffres clairs qui donnent une idée de l'ampleur des victimes du conflit birman, à la fois des victimes du conflit direct et indirect, notamment de la crise humanitaire. C'est très compliqué, il y a des zones là où il n'y a pas d'Internet, quasiment pas d'Internet depuis le coup d'État.
Oui, et vous l'avez mentionné, les rebelles détiennent à peu près maintenant la moitié du territoire. Depuis des mois, on le remarque, la junte est de plus en plus affaiblie. Pour autant, elle n'est pas encore tombée. Est-ce que là aussi, c'est lié à un manque d'attention, à un manque de pression de la communauté internationale ?
Il serait un peu simpliste de dire que c'est uniquement dû à un manque d'attention de la communauté internationale. La junte est très impliquée en Birmanie depuis des décennies. Elle a installé son pouvoir. Elle est très impliquée dans le maillage économique aussi du pays, dans tous les systèmes. Mais on voit qu'il y a un manque d'attention de la communauté internationale, un manque d'application des sanctions qui ont été prises et des sanctions supplémentaires qui pourraient être prises pour favoriser le retour de la démocratie en Birmanie et pénaliser la junte, notamment dans ses ressources. Que ce soit financière ou matérielle.
Et justement, aujourd'hui, quelles sont les ressources de la junte ? Qu'est-ce qui lui permet de tenir encore à peu près ?
Alors, la Birmanie dispose de nombreuses ressources naturelles. Hein. C'est un des pays, par exemple, qui en ce moment extrait le plus de terres rares, qui viennent de tomber aux mains de la résistance. D'autres, une part importante de ces ressources naturelles reste aux mains de la junte, avec notamment du gaz, du bois, etc. La junte est impliquée dans tous les pans de l'économie, donc elle continue à avoir des revenus. Et sur le plan diplomatique, il y a le soutien de la Chine et le soutien de la Russie qui, pour le moment, ont continué de soutenir le régime militaire.
Et alors justement, le régime militaire a prolongé de 6 mois l'état d'urgence, ce qui repousse encore plus la perspective d'éventuelles élections. Est-ce que à court ou moyen terme, il y a tout de même un espoir de voir le pouvoir revenir aux civils en Birmanie ?
Bien sûr qu'il y a un espoir. La junte montre de nombreux signes d'affaiblissement, donc il y a bien une chance que la junte birmane tombe. Il y a 4 ans, peu de personnes l'auraient cru et maintenant, on envisage tous clairement la possibilité. Après, malheureusement, il est impossible de donner des délais. Quant aux élections annoncées par la junte, elles n'ont d'élection que le nom. Il est absolument impossible d'avoir des élections justes sous la junte qui, pour rappel, a emprisonné plus de 28 000 personnes depuis le coup d'État, en prisonnier politique, a liquidé de nombreux partis politiques et de toute façon ne contrôle pas le territoire pour faire ce semblant d'élection.
Ouais, et dans l'hypothèse où la junte devait tomber, est-ce qu'il y a une organisation qui se dessine ? Est-ce que les groupes rebelles commencent à préparer une forme de transition ou c'est encore très lointain ?
Non, ça se dessine. On sait que les forces de la société civile, le gouvernement d'unité nationale et les groupes armés ethniques travaillent ensemble à des brouillons de futures constitutions, dans l'idée d'avoir donc une fédération, un fonctionnement fédéral en Birmanie. Il y a pour le moment évidemment rien de clair à 100%, mais on sait que c'est quelque chose qui est en cours. Et on a vu d'ailleurs des administrations se mettre en place dans certains États, notamment dans l'État Karini, qui commencent à montrer leurs preuves de fonctionnement avec la remise en place de systèmes, notamment de biens publics, que sont l'hôpital, l'école, etc.
Et est-ce qu'on peut imaginer, parce que vous avez parlé justement d'une structure fédérale, est-ce qu'on peut imaginer une forme de morcellement de la Birmanie où le pays pourrait réussir à rester uni ?
C'est le risque, évidemment. De nombreux observateurs craignent une fragmentation de la Birmanie. Mais on remarque aussi que la population birmane, qui fait preuve d'un courage et d'une résilience extrêmement conséquente, est fatiguée de la guerre. Et on a du mal à voir comment, après tous les sacrifices pour un avenir commun, il pourrait y avoir une Birmanie divisée. Donc il y a des volontés d'autonomie, d'où le fédéralisme, mais on ne parle pas encore de volonté d'indépendance. Donc la Birmanie a aussi toutes ses chances de rester unie.
Merci beaucoup, Johanna Chardot-Nieras, coordinatrice de l'ONG Info Birmanie, pour votre analyse.
RFI Midi.
Dimanche midi, c'est peut-être chez vous l'heure de l'apéritif. Sur les tables du Pérou et du Chili, un classique, le Pisco Sour, un cocktail au goût acide préparé avec une eau de vie, le Pisco, une distillation de vin blanc. Or, Santiago et Lima revendiquent tous deux la paternité du breuvage. Notre correspondante Marion Bellal au Chili a tenté de trancher cette querelle vieille de plus d'un siècle.
Il faut bien l'avouer, c'est le Chili qui a mis le feu en revendiquant le premier la paternité du Pisco en 1931. Depuis, c'est la guerre avec le Pérou, chacun revendiquant le label appellation d'origine. La discorde a été ravivée en décembre dernier puisque l'UNESCO a certifié l'authenticité d'un ensemble de manuscrits péruviens qui attestent la production et la commercialisation de Pisco entre 1587 et 1613. C'est la preuve la plus ancienne à ce jour qui établirait donc l'origine de cette eau-de-vie au Pérou. Mais dans les rues de Santiago, quand on demande d'où vient le Pisco, la réponse est immédiate.
Ah non, du Chili.
Eduardo, chilien et manifestement chauvin, nous confie les secrets de sa recette de Pisco Sour.
Ce n'est pas n'importe quel citron, il faut des citrons plus petits, qu'on appelle ici le citron de pica. Et bien sûr, un bon Pisco. Moi j'utilise du chilien.
À proximité, Horacio, qui est d'ailleurs en pleine dégustation d'un Pisco Sour, est en désaccord.
Le Pisco péruvien, il est plus doux, donc pour un Pisco Sour, il est plus agréable. Notre Pisco chilien, il est plus puissant pour ainsi dire.
Dans le quartier très touristique de l'Astaria, si on veut boire un Pisco Sour, ce sera au restaurant Chipe Libre. Et il est géré par un Français, Jérôme, installé au Chili depuis 26 ans, qui pourrait bien avoir trouvé la réponse à cette discorde chilo-péruvienne.
C'est chi de Chili et p de Pérou. Et en fait, l'idée de Chipe Libre, c'est que le Pisco en a eu assez, il en a eu marre de ses batailles. Donc il a fait sa révolution, il a annexé le sud du Pérou et le nord du Chili, il a créé sa propre République.
Pour ce spécialiste, chaque pays a du bon pisco, mais avec quelques différences.
Par exemple, au Chili, on passe le pisco dans des barriques de bois. Au Pérou, le bois est interdit. On ne travaille pas non plus les mêmes raisins.
Si cette querelle est bien sûr culturelle, l'enjeu est aussi économique. Pour le Chili, les exportations de pisco rapportent presque 3 millions d'euros. Pour le Pérou, ça grimpe à près de 7 millions. Depuis son restaurant indépendantiste, Jérôme regrette que les deux pays n'unissent pas plus leurs forces pour faire connaître cet alcool au-delà de leurs frontières.
Malheureusement, aujourd'hui, ce qui bloque le développement du pisco, c'est cette guerre ridicule entre le Pérou et le Chili. Ils dépensent leur budget dans des procès et des avocats.
Aujourd'hui, la majorité des exportations des deux pays se font vers les États-Unis, le Japon et l'Espagne. Alors à savoir tout de même si vous en trouvez en France, le pisco pur, péruvien ou chilien, c'est entre 30 et 45 degrés d'alcool. Marion Bellal, Santiago, RFI.
Un alcool à consommer donc avec modération et puis un reportage à retrouver, là, sans modération, sur notre site RFI.fr.
RFI N'Djamena, 100.2 FM.
Midi 24 en temps universel, l'heure de l'hymne de défense. Ce dimanche, on revient sur le départ des soldats français au Tchad. Paris a en effet rétrocédé jeudi sa dernière base militaire à N'Djamena, la fin d'une présence militaire française historique au Tchad. Franck Alexandre.
150 ans d'une présence militaire continue. 1885, c'est la course au clocher, selon la formule de l'époque, rappelle l'historien Christian Bouquet. Trois colonnes militaires françaises s'élancent alors à travers l'Afrique.
une qui partait du sud, une qui partait de l'ouest et du Sénégal, et l'autre qui partait du nord, c'est-à-dire d'Algérie. Au niveau de la bourgade qui allait devenir N'Djamena, après s'être appelée Fort Lamy, c'est cette dernière colonne, en fait, qui avait été impressionnée par les fameux guerriers du désert. Alors, à partir de là, il y a eu une certaine admiration pour ces gens qui se battaient et qui n'avaient pas peur de mourir.
Lieutenants et capitaines français, véritable colonne vertébrale d'une administration coloniale, vont façonner l'immense territoire tchadien. L'indépendance n'y changera rien.
Après l'indépendance de 1960 et pendant 3 ans, toute l'immense région nord du Tchad, c'est-à-dire le Borku et Nedi Kibesti, avait comme préfet un colonel français, le colonel méhariste Jean Chapelle. Et puis ensuite, assez rapidement, à la fin des années 60, l'instabilité était grande et on a fait revenir cette fameuse mission de réorganisation administrative en 69 et on a renvoyé des administrateurs coloniaux, souvent dans leurs anciens postes, pour essayer de rétablir l'ordre.
Le Tchad va servir de creuset à l'armée française. Opération Bison, Taco, puis Manta contre la Libye du colonel Kadhafi. Il y eut ensuite Épervier pour protéger les régimes d'Issénabré et d'Idriss Déby face aux groupes rebelles. Le Tchad, au centre du grand jeu, même l'opération Barkhane au Sahel avait son état-major N'Djamena. Tous les officiers français y sont passés, se souvient le colonel des troupes de marine, Pierre de Jong.
Le Tchad, c'est une partie de ma jeunesse, mais aussi la jeunesse de tous les officiers français. La professionnalisation de l'armée française vient en partie des combats de 69 au Tchad, parce qu'on avait la Légion étrangère, mais il y avait des besoins, donc il a fallu professionnaliser une partie de l'armée française, dont le 3e régiment d'infanterie de marine qui avait un vrai besoin. Et donc cette construction autour de Tchad a fait qu'évidemment, l'histoire de l'armée française s'est inscrite dans l'histoire du Tchad.
Entre le Tchad et l'armée française, c'est une histoire intime, relève l'historien Christian Bouquet.
C'est quelque chose qui relève de l'émotion. Il y a tellement eu d'opérations et d'interventions militaires françaises sur ce territoire. Depuis que le commandant Lamy était mort sur les bords du fleuve Chari, il y a toute une mythologie qui fait que les militaires français ont un petit coup au cœur.
L'armée tchadienne est la plus efficace de la région, assure les officiers français, prêts à ouvrir un nouveau chapitre de leur relation avec le Tchad. Une relation qui, pour la première fois, se fera sans présence permanente.
Franck Alexandre.
RFI Midi. RFI à Cluj, 91.7 FM.
Avant de passer à l'actualité africaine avec Simon Bourtembourg, du cinéma et un long métrage sorti cette semaine en France, La mer et ses vagues, un film du duo franco-libanais Liana et Renaud. On y suit la traversée de Beyrouth par un musicien et une toute jeune fille. Ils doivent rencontrer des passeurs pour rejoindre une femme de l'autre côté de la Méditerranée. Muriel Malouf.
Ce qui nous intéressait, c'était le rapport que pouvaient avoir des personnes qui traversaient la ville.
Renaud, co-réalisateur de La mer et ses vagues.
Et comment est-ce que des étrangers sont accueillis ou pas?
Les deux étrangers donc, dont on reconnaît l'accent syrien, traversent une ville fantomatique, loin du Beyrouth grouillant de vie qu'on connaît. Ils croisent un milicien qui vérifie leurs papiers, des fêtards en voiture qui les rabrouent, un marchand ambulant de café, autant de personnages hostiles dans une ville peu accueillante. Liana, co-réalisatrice.
Cette façon dont on met en scène Beyrouth vide, malheureusement, elle fait écho avec le Beyrouth qu'on peut retrouver aujourd'hui en 2024. La ville a subi de telles vagues d'immigration, plus une forme de flétrissement profond, et fait que, crise après crise, on a l'impression qu'on ne finit pas de l'achever, où il y a une forme de vide aujourd'hui.
Un vide que tente en vain de combler une marchande de loterie, vendant la chance à une population désespérée et incarnée par la truculente Hanan Hajali. Et puis il y a le gardien du phare, interprété par Roger Assaf, à la présence merveilleuse, gardien de la lumière dans Beyrouth où l'électricité est précieuse et déficiente. Il semble veiller sur le souvenir d'une ville.
Beyrouth, c'est une de ces grandes capitales dans l'histoire du monde qui a représenté une utopie, qui n'appartiennent à aucune philosophie, à aucune religion, à aucune idée, qui est le lieu où tout se rencontre. Je me rappelle du quartier juif de Wadi Abou Jmil, quartier arménien, le quartier musulman, chrétien, tout cela se rencontre à Beyrouth sans qu'il n'y ait de conflit. Au contraire, cette ville extraordinaire n'existe plus. Elle a été détruite en partie par la guerre civile, ensuite par les agressions israéliennes multipliées, par ceux qui ont détruit aussi les immeubles pour construire une Beyrouth moderne. Tout ça s'est accumulé, a fait de Beyrouth une ville martyrisée, dont il ne reste non pas la mémoire, mais le souvenir.
La mer et ses vagues, tournées en argentique, nous transportent dans un monde perdu où la vie surgit puissante, dans les traces d'une pierre, d'un bâtiment, d'une rue, et Beyrouth devient la métaphore d'un monde qui refuse de décliner.
Le film La mer et ses vagues.